facile de tomber complètement amoureux de cette profession. C'est son énergie, je pense, que j'ai choisi. C'est le fait d'être happé, sûrement de voyager aussi pendant les films, je veux dire pendant les tournages, pendant que ce soit géographiquement ou juste intérieur. Mais il y a comme ça un truc qui est très, oui, happant. Moi, je pense que j'ai ça depuis enfant. Ouais. C'est bien ça. C'est une des raisons pour laquelle je comprends que que ce métier est devenu très concret pour moi. Moi, j'étais petit, je faisais le con partout, dans la rue, à l'école, etc. Donc, il y a quelque chose de très très net, oui, chez moi qui est. Mais d'ailleurs, depuis que je suis comédien, je me calme. D'ailleurs, je suis plus discret.
C'est vrai que c'est un garçon discret. Sur un plateau télé, il parle du film qui le concerne, mais pas de lui. La presse People épargne le comédien, on le voit peu ou pas faire des mondanités. À l'instar d'un Jean-Jacques Goldman, il ne cherche pas la lumière, elle vient à lui. Et c'est comme ça depuis l'adolescence. Son sourire et son charme l'ont fait entrer de manière fracassante dans le cinéma, regardé par la caméra de Clapiche, dans Le Péril Jeune.
Et rigolez les mecs, n'empêche qu'on est que 5 petits branleurs. On se fait virer des cafés, on n'a jamais un rond, on sèche les 3/4 des cours, on n'aura jamais le bac. Et j'aimerais bien voir la gueule qu'on aura tous dans 10 ans.
Ouais, c'est vrai, tous des chômeurs.
Depuis, sourire, charme et, paraît-il, concentration extrême sont toujours là au service d'un cinéma populaire et d'un cinéma d'auteur. Ajouté désormais à l'étendue de son domaine des possibles, sa maturité de cadra, dans « Nos batailles » du franco-belge Guillaume Sénèze, il incarne avec beaucoup de vérité un père de famille dont la femme quitte brutalement le domicile.
Bon, tout à l'heure, je me suis aperçu qu'elle avait pris des affaires, quoi.
Quoi? Ses habits?
Ouais.
Trousse de toilette, maquillage, tout ça.
Ouais.
On n'est plus dans une disparition inquiétante, là, Olivier.
Si. C'est inquiétant.
Et voilà cet homme seul avec son travail à l'usine et ses deux enfants à charge. Bonjour, Romain Duris.
Bonjour.
Bienvenue dans le Grand Atelier. Merci d'être avec nous.
Ben, merci à vous.
Un dimanche après-midi. J'imagine que le dimanche après-midi, c'est un temps de repos, un temps familial.
Ou pas.
Ça peut être
un
temps de travail.
C'est toujours étrange, le dimanche. Ouais, ouais, y a toujours un rythme différent, je trouve, que des autres jours.
Vous faites quoi en général?
Je me pose la question. Tiens. On veut que ce soit familial, mais parfois c'est un bon moment pour travailler aussi. Comme je vous dis, il y a un rythme qui est différent, donc il y a une tranquillité. Et c'est pas mal de travailler dans la tranquillité aussi.
Travailler quand on est Romain Duris, c'est apprendre un texte surtout?
Apprendre un texte, dessiner, faire le point.
Vous êtes un homme qui fait le point?
Non, mais comme on disait en introduction, comme il y a beaucoup de voyages dans ce métier, que ce soit en promotion ou pour les tournages, c'est vrai que la notion de faire un peu le point ou un break, une pause ou être tranquille compte beaucoup, je trouve. Ouais.
Parce que ça va vite, la vie de Romain Duris?
C'est pas que ça va vite, c'est que c'est très varié, c'est très explosé, dans plein de sens différents, émotionnellement aussi. Donc c'est bien de faire des pauses à tout point de vue, quoi.
La promotion, d'accord, mais ne pas parler de soi. J'ai raison quand je dis ça, ça vous ressemble?
Moi, j'ai toujours apprécié, par goût, en tant que spectateur, qu'il y ait du mystère autour des acteurs, des gens qui m'impressionnent dans les films. C'est pour ça que je me pose des questions sur les réseaux sociaux, pas mal, en fait. Pourquoi se raconter à ce point-là? Alors que finalement, un De Niro, moi, ou un Pacino, je les ai toujours aimés, mais dans leur mystère aussi. J'ai pas envie de savoir qui sont. Donc voilà, je réfléchis à ça et... Enfin, de toute façon, c'est assez naturel, c'est même pas une réflexion. Moi, je suis plutôt discret. Peut-être aussi pour préserver de l'énergie et pour que ça déborde dans un film, vous voyez. Mais pour cela, il faut pas être tout le temps à fond, il faut pas être tout le temps en représentation, sinon on se disperse et voilà.
Vous n'êtes pas sur Facebook?
J'y suis un peu, mais j'y étais beaucoup pour les dessins, parce que là, j'ai trouvé un intérêt, d'un coup, de présenter des dessins, de présenter ce qu'on a fait avec nos invités suivantes qui sont là. Donc oui, pour ça, c'était très bien. Il y avait des réactions qui m'intéressaient, voilà. Mais après, je sais pas, je me pose des questions. À quel point il faut être présent sur ces réseaux-là, je sais pas.
Comment on se préserve?
C'est facile de se préserver. On arrête de mettre des photos, on met une casquette dans la rue, on va dans les endroits qu'on aime bien, qui sont pas forcément les endroits... où on est observé, enfin, c'est très facile quand même, ça c'est rassurant.
Le Grand Atelier, Romain Duris, c'est vous, mais c'est aussi vos invités. et EES. On s'est amusé à faire deux parties genrées. Il y aura des femmes dans la première partie et des hommes dans la seconde.
On est galant du coup.
On est galant du coup et on salue et on accueille Anne-Dominique Toussaint. Bonjour.
Bonjour.
Directrice de la galerie cinéma à Paris et puis productrice. Et en face de vous, Agnès Dahan qui est graphiste. Et donc bonjour. C'est la première radio.
Oui.
Quelque bonjour. Chose me dit donc qu'on va parler de dessin, n'est-ce pas, monsieur Duris?
De dessin, de... Ouais, ça englobe plein de choses. Hein. C'est large comme domaine.
C'est large. On va les questionner dans un instant tous les deux, si vous le voulez bien. Est-ce que vous aimez Bachung?
Oui.
Il y a un disque de Bachung avec des chansons complètement inédites, dont celle que lui avait écrite Dominica et qu'il n'avait pas retenue au dernier moment, c'est Immortel.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? M'avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous des faces aviné, mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu quand se mordant la bouche, le goût en haut revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait, et qu'on soit là ou pas, quand même on dit toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Mortels, mortels, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Voilà, Immortel, c'est une chanson extraite du disque posthume donc de Bachung, composée de titres enregistrés, mais jamais sortis sur un disque. Ça s'intitule En amont et vous pourrez le découvrir le 23 novembre. Ça, c'est émouvant hein, de réentendre la voix de Bachung.
Belle voix. On a l'impression qu'il est là.
Vous chantez, vous?
Ah non.
Ah, ça vous fait rire. Vous avez un groupe. Et vous faites quoi dans ce groupe?
J'ai de la batterie, c'est pas pratique de chanter.
À jamais vous avez chanté dans ce groupe? Juste de la batterie?
Si, j'ai dû chanter, mais heureusement, ça n'a pas été enregistré. Non, j'ai chanté dans un film de Christophe Honoré qui s'appelait Dans Paris.
Bien sûr.
Une belle chanson. Ouais. Donc, je sais que c'est agréable de chanter. Après, il faut s'entendre. C'est un autre problème.
On l'écoutera d'ailleurs tout
à
l'heure.
On l'écoutera.
Cette chanson de Romain Duris. Mais vous aimez faire plein de choses, vous, quand vous jouez, danser, chanter, ne pas faire que jouer et dire des mots.
Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Et en plus, parfois, ça nous demande un travail très agréable parce qu'on a ce but précis qui est le tournage et... Donc il y a une espèce de défi comme ça.
C'est bien d'employer le mot travail quand on est acteur, parce que c'est un travail, c'est du boulot.
C'est vrai que vous le faites remarquer, parfois on le sent pas. Mais ça, c'est, je pense que c'est quand on aime ce qu'on fait.
Non, mais on a parfois tendance à penser qu'on apprend un texte et qu'on va devant une caméra, mais c'est un boulot en amont énorme, non?
Oui, oui, oui. Après, très, très intéressant, mais c'est vrai qu'il y a une concentration, il y a aller chercher du matériel, parce qu'il faut bien se nourrir et s'éloigner de soi. Donc pour chaque rôle, on va chercher des choses partout, dans les livres, dans les films, dans des documentaires.
Vous dessinez quand?
Je dessine quand ça s'arrête, tout ça, entre les tournages et les moments de promotion. Donc c'est pas évident de dépasser l'étape du gribouillage, parce que si on tourne beaucoup et qu'on fait beaucoup de promos, je veux dire par là que le moment où on dessine et pour que le dessin vaille quelque chose personnellement, il faut quand même qu'il y ait une durée assez importante. Sinon, ça reste du gribouillage.
Alors, il y a ces présences féminines, je le disais à l'instant, dans le studio, qui vous connaissent bien en tant que dessinateur. Racontez-nous un peu votre histoire avec elles deux.
Alors, je vais commencer chronologiquement. C'est un Dominique que j'ai rencontré il y a longtemps maintenant. On se croisait dans la rue. Dans Paris, Anne-Dominique est productrice de cinéma, donc on se croisait aussi, je crois que tu avais produit un film de Louis Garrel, donc comme c'est un ami, voilà. On
parle. Les deux amis.
Les deux amis, très beau film.
On va là.
Où ça?
L'hôtel qui est juste en face.
Mais c'est combien d'étoiles ces hôtels là?
Attends, tu veux qu'on dorme tous les trois ensemble, c'est ça?
Ouais, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas de brossade. Hein.
Non mais tu vas nous emmener à l'hôtel?
Dis donc, je crois que t'avais raison. Hein. C'est une fille très très bizarre. Nous trois à l'hôtel, c'est vraiment une bonne idée.
Tu veux pas nous laisser, s'il te plaît?
Bah pourquoi?
Parce que je sais pas, c'est quand même la moindre chose que tu puisses faire en tant qu'ami.
Attends, faudrait savoir, je croyais qu'on n'était plus.
Ouais. Casse-toi, vas-y.
Bah d'accord,
vas-y,
vas-y, bah d'accord, vas-y, ok, merci. Je me casse.
Bah merci.
Non mais attends, je veux dire, moi si je m'en vais, tu me reverras jamais, hein?
Ouais.
Ah, excuse-moi, tu me reverras jamais, moi je te pardonnerai pas de me sacrifier pour une fille que tu connais à peine.
D'accord.
C'est ça que tu veux, tu veux plus jamais me voir?
Voilà, c'est ça.
Allez, venez!
Bref, on parlait au départ pas mal de cinéma, puis Anne-Dominique avait sa galerie qui s'appelle la Galerie Cinéma, dans le Marais à Paris, et elle me disait qu'elle exposait aussi des artistes qui avaient un rapport avec le cinéma, mais c'était plutôt des photos. Tu me dis si je me trompe, hein, Dem. Et puis moi je lui disais, bah oui, ah tiens, moi c'est marrant, moi je dessine et tout, mais bon, j'oserai jamais exposer et tout. Et puis, je sais pas, c'est en parlant avec Anne-Dominique plusieurs fois, en se recroisant, qu'elle me titillait toujours en me disant, mais tu sais, les dessins c'est exposable. Moi, ça peut m'intéresser, on peut faire ça légèrement, tranquille, pas de pression.
Et vous, jamais, vous n'aviez eu envie de ça, hein?
Non, exposer jamais. Par contre, l'idée du livre est arrivée. Agnès Dahan. L'idée du livre est arrivée avant l'exposition. Je me disais, tiens, j'ai plein de dessins, j'ai plein de matériel chez moi. Et ils viennent pour la plupart de carnets de croquis. Donc, ça me semblait cohérent de faire un livre comme un espèce de recueil. Parce que d'une part, le format est cohérent. Et j'aime bien ce côté dessin de plein de choses sur 20 ans. Rassemblés dans un objet, qui est un livre qu'on peut embarquer avec soi, qu'on regarde seul, tranquille à la maison.
Romain Duris a toujours dessiné. Le cinéma est venu contrarier cette vocation qui, dès lors, est devenue la part secrète du comédien. Elle est aujourd'hui révélée par une exposition et un livre qui patiemment attendait son heure. De par son érotisme décomplexé, croqué par les mâchoires de l'humour noir, le désir de poursuivre au grand jour une discipline entamée il y a plus de 20 ans est pleinement assumé. Le trait ne se tiendra plus en retrait.
Alors Agnès Dahan, vous qui êtes graphiste, comment se fait la rencontre avec Romain? Qu'est-ce qu'il vous montre? Quel est le matériau qu'il apporte chez vous?
Le premier jour qu'on s'est rencontrés, on s'est assis et tu as commencé à me faire défiler tes dessins sur iPad. Je me souviens de ça. Enfin, j'avais aucune idée de ce que faisait Romain en dessin. Et après, je crois que t'as commencé à sortir des choses, parce que ouais. Je crois que je t'ai dit, mais en fait, moi, j'avais besoin de comprendre ce que c'était que ces dessins, parce que il y avait à la fois des dessins très grand format, des peintures, il y avait des carnets, des agendas gribouillés, plein de choses comme ça. J'avais envie de voir un peu toute cette matière de la sonde, enfin de la toucher, etc.
Vous sentiez une profusion de sa part, une sorte de flux comme ça?
Oui, une profusion, une hétérogénéité aussi de techniques et de aussi de. Je sentais que c'était que le dessin, il venait à plein de moments chez lui. On sent
par
bien
exemple.
Quand on gribouille dans un agenda. Je pense à, je sais pas, à 20 ans à l'école, c'est pas pareil quand on va se mettre à faire une peinture. Les supports disaient aussi beaucoup de choses, enfin racontent beaucoup de choses, et donc on s'est retrouvé comme ça au milieu de son atelier avec tous ses dessins au sol, etc. Et voilà, ça a été comme une espèce de plongée dans une espèce de piscine de dessins, de peintures.
C'est là que le rôle d'une graphiste, Romain Duris, est important. Hein. C'est quelqu'un qui va ordonner et faire en sorte que le lecteur apprécie le travail. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Et c'est ce que vous ne pouviez pas faire tout seul.
Non, j'étais très étonné que ça puisse exister, d'ailleurs. Que quelqu'un comme ça s'insère dans le processus, qu'elle propose des trucs. Peut-être c'est la relation d'un metteur en scène avec un producteur.
C'est proche, oui.
Non, en fait, je sais pas si c'est mettre de l'ordre, en fait. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est déjà la nécessité, je pense, pour toi, à un moment donné, d'avoir un regard de quelqu'un d'inconnu, parce qu'en fait, c'est ça. Et je pense que c'est important pour toi aussi. C'était important, quelqu'un qui ne te connaissait pas, d'avoir une espèce d'approche comme ça, de la part de quelqu'un dont t'appréciais plutôt le travail au niveau graphique, puisque c'est comme ça que tu étais venu vers moi, en voyant des livres que j'avais pu faire, mais avec des gens qui étaient pas des dessinateurs, en fait, plutôt je travaille plutôt avec des photographes. Mmh. Donc voilà, c'est d'avoir le regard de quelqu'un qui fait de l'édition sur ce travail là. Donc moi je suis arrivée sans aucun a priori, je ne savais absolument pas ce à quoi j'allais avoir affaire. Et en fait, ce qui m'a plu avant les dessins chez toi, c'est vraiment c'était l'envie d'un moment donné d'une personne de faire un espèce de point sur une vingtaine d'années de travail qui peut paraître, on va dire, annexe au travail principal qui est ton travail d'acteur, mais qui est un travail finalement central. Moi, j'ai compris ça. Et c'est ça qui m'a plu. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, cette personne, le dessin, la peinture, c'est quelque chose qui l'anime profondément. C'est ultra important dans
alors,
sa vie.
Il y a aussi Anne-Dominique Toussaint qui participe ensuite à l'accrochage de Monsieur Duris. Et qu'est-ce que vous voyez, vous, comme dessin? Parce qu'il faudrait qu'on les décrive un petit peu. Qu'est-ce qui vous frappe? Que dessine Romain Duris?
Alors, moi, j'ai découvert les dessins à peu près en même temps qu'Agnès, puisque je suivais aussi tout le processus du livre. Moi, j'avais très envie que Romain expose à la galerie, puisque cette galerie cinéma, c'était comme si elle avait été faite pour lui, puisque c'était une galerie qui mêle l'art et le cinéma. Mmh. Et donc, tout d'un coup, il m'a montré ses dessins la première fois sur iPad, la même chose. J'ai vu défiler, et j'ai vu défiler des... comme une espèce de jet de une force de vie, de plaisir, de corps, de libido, je dirais.
Ouais, c'est vrai, on peut citer par exemple ce couple nu qui fait l'amour dans un bateau. Le couple est tout petit par rapport à l'immensité de la mer ou de l'océan. Une femme qui est en petite tenue désirée par deux hommes âgés que j'ai trouvé bien libidineux. Un dessin qui montre des dizaines de paires de seins comme quelque chose d'assez obsessionnel. Est-ce que vous dessinez des obsessions?
Non, enfin derrière tout ça.
Non, mais je voudrais dire qu'il y a toujours derrière tout ça, il y a quand même quelque chose toujours d'assez sain et joyeux. Et moi, c'est ça qui m'a frappée en premier, c'est de voir une espèce d'élan de vie qui sort à travers ces personnages et ces corps.
Pardon. Moi, j'ai le sentiment, j'ai le sentiment de toujours chercher en fait l'état de l'homme emprisonné dans son désir et qui peut en devenir complètement stupide et s'oublier totalement et du coup être très maladroit.
Donc c'est la connerie masculine.
C'est la connerie masculine qui est énorme. Elle va aller très loin.
Que vous vivez, que vous fréquentez parfois.
Non mais que j'observe et je trouve que c'est très drôle et c'est ce qui me fait beaucoup rire dans les dessins de Crumb. Hein. J'ai rien inventé.
Ouais, l'Américain voilà. Qui n'hésite pas à montrer lui aussi beaucoup de.
Lui se met en scène carrément lui-même, tout petit, avec des femmes gigantesques avec qui il fait l'amour et elle l'étouffe complètement. Bref, moi ça m'amuse. Cette pose, et oui, elle est partout, tous les jours, il suffit de regarder.
Elle n'est pas dénonciatrice, cette attitude de Romain Duris?
Non, elle est drôle.
Elle est aussi angoissée.
Elle est aussi angoissée, mais et drôle, ce qui n'est pas le contraire du personnage de Romain d'ailleurs. Elle est vivante. Elle n'est pas dénonciatrice, non. Elle est descriptive.
On continue de parler avec vous trois du travail graphique de Romain Duris, qui ne date pas d'aujourd'hui. Il était adolescent et à 15 ans, sa chambre était recouverte de ses dessins. Vous m'arrêtez si je me trompe. Mm-hmm. Anne-Dominique Toussaint, Agnès Dahan, Romain Duris. On va écouter un peu de musique, du piano, si vous voulez bien, parce que c'est important, le piano, dans votre vie d'acteur, dans votre vie tout court, parce que vous avez joué un personnage qui se remettait au piano de façon professionnelle. C'était dans De battre, mon cœur s'est arrêté, de Audiard. Et puis, c'est votre sœur.
Ma sœur Caroline, qui est
Caroline Duris, ouais. qui joue tous les jours. Jouer quand vous étiez censé jouer, en tout cas dans ce rôle, et qui bien sûr est professionnel. On l'écoute jouer la deuxième rhapsodie de Brahms.
Avec plaisir.
Oh, on le sent ému d'entendre 50 ans.
Ouais, j'ai grandi avec ça, vous en rendez compte? La chance.
Vous avez joué de la batterie, vous seulement? Vous avez
Moi,
pratiqué un autre
je répondais avec la batterie à l'autre bout de l'appartement, ouais. Il n'y avait pas de raison. Hein.
Et ça donnait quoi? Ça l'énervait?
Ça donnait un bordel. Je ne sais pas comment elle faisait, elle, pour jouer du piano. La batterie, ça va. On peut entendre le piano derrière, c'est pas grave. Le piano, je ne suis pas sûr de l'inverse.
Il y a combien d'enfants du risque?
Il y a un frère entre les deux.
Qui lui joue de?
Non, il ne joue pas. Il est designer.
Vous êtes enfant d'artiste ou pas? Alors, le père est architecte?
Architecte, la mère coloriste, oui.
Et la transmission du dessin vient de qui?
Je pense d'un accompagnement de parents bienveillants qui, très jeunes, me disaient « Oh, mais c'est très beau, mon chéri !» avant de déchirer le dessin et de le foutre à la poubelle.
Ce qui est très sain.
Ben oui, ce qui est très sain.
Vous faites la même chose avec vos enfants.
Je dirais rien.
Oui, c'est vrai. J'oubliais. Agnès Dahan, vous avez fait la même école que Romain Duris. Quelle est cette école?
Alors, c'est Dupéré. Moi, j'ai fait une prépa à l'école normale là-bas, donc j'étais un petit peu en marge. J'ai adoré cet endroit.
Mais vous n'êtes pas rentré là en voulant être graphiste, c'est venu
si,
au
tout
fur et
à
mesure.
Fait, en fait. Mais en fait, je me suis un petit peu mal orientée au départ, on va dire. Pour des raisons personnelles, j'ai fait le choix d'une carrière, on va dire, artistique, mais j'ai commencé par me dire que j'allais enseigner. Ça, donc c'est pour ça que j'ai fait une prépa à l'école normale. Donc je suis rentrée après à l'école normale de Cachan, en art appliqué. Et puis j'ai décidé finalement que voilà, le métier de professeur attendrait un peu et que finalement j'allais essayer de pratiquer plutôt ce métier que de transmettre. Enfin, j'avais l'impression qu'il fallait pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que pour enseigner bien une discipline comme celle-là, enfin le graphisme, notre discipline des arts appliqués, il fallait pratiquer.
Et la photo, alors comment vous en venez à vous occuper d'elle en la présentant dans des livres? Vous avez travaillé avec un grand éditeur qui est Xavier Barral?
Alors oui, j'ai travaillé avec lui. C'est-à-dire que je travaillais pour lui en fait. J'étais directrice artistique dans sa maison d'édition pendant une année. Donc c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses et notamment vraiment le comment fabriquer un livre, l'editing des photos, les enchaînements, etc. Et aussi qu'est-ce qui fait aussi la spécificité d'un livre, son mode d'impression, ses qualités, on va dire, plastiques et matérielles, c'est-à-dire comment le choix du papier, le choix d'une impression, le choix d'un format et évidemment d'une typographie, d'une mise en page vont converger vers un projet. Comment toutes ces choses-là doivent être mises en branle pour arriver à soutenir un projet, juste, voilà, de manière la plus précise.
Vous aviez, Romain Duris, repéré les livres d'Agnès,
oui.
Chez Textuel notamment?
Oui, il y avait notamment une année, je crois, à Paris Photo, je crois que c'était là, où il y avait un stand de Textuel. Et j'étais avec Anne-Dominique parce qu'on avait déjà ce projet d'exposition et Anne-Dominique aussi a été une grande force pour moi, il y a une confiance. Elle m'a accompagné là-dedans en me disant vas-y, fais le livre, vas-y, t'y es, tu vas trouver l'éditeur qui te convient. Donc j'étais avec Anne-Dominique et on faisait les stands et donc évidemment Xavier Barral, plein de stands. Et puis d'un coup il y a un stand coloré avec la pêche, un graphisme incroyable et tout. Et je me dis mais c'est ça! Et Anne-Dominique me dit, ça c'est Textuel, ils font partie de l'Acte Sud, voilà, allons les voir. Et puis du coup, on a rencontré Marianne Théry qui s'occupe de Textuel, c'est ça?
Exactement, et qui t'a présenté
Agnès. Et comme par hasard, c'est vrai que tous les bouquins qui me parlaient et qui m'avaient attiré mon regard venaient d'Agnès. C'était Agnès qui les avait produits, édités.
Anne-Dominique Toussaint, en regardant, là, j'ai le livre Pulp de Romain Duris, en regardant tous ces dessins qui sont faits au crayon, mais pas seulement, qu'est-ce que vous avez d'autre comme outil?
Il y a du crayon, du stylo, de l'acrylique. La peinture, c'est souvent de l'acrylique, parce que ça sèche vite et qu'on peut passer par-dessus.
Et de l'encre un peu. Est-ce que vous avez senti des influences? Romain Duris parlait de Crumb, l'américain. Vous pensez à qui d'autre? On a le droit de se dire, tiens, il a dû aimer un tel, il doit aimer un tel.
Non, Crumb, c'est vrai que on y pense très vite.
Mmh. Moi, j'ai pensé à certains dessins de Roland Topor.
Oui, on en a parlé beaucoup.
Oui.
Pourtant, je connais très mal Roland Topor. Oui. Ouais, j'ai loupé cette fameuse exposition à la Grande Bibliothèque. Mais
et par rapport aux autres comédiens que vous avez pu exposer, qui font des choses comme des photos ou des dessins, comment vous le situez, Romain Duris? Pourquoi il y avait une telle évidence pour vous de l'accrocher?
d'abord son envie qui était très manifeste, mais un peu caché. Et justement, quand il venait à la galerie, quand on en parlait, quand on se croisait, il parlait de ses dessins. Après, il a effectivement parlé de désir de livre. Mais je sentais que c'était le moment pour lui, qu'il avait envie, mais que il n'arrivait pas quand même à l'exprimer, cette envie, et à oser franchir le pas. Et moi, je pense que mon rôle a été aussi justement de l'accompagner et de lui dire « tu peux le faire, il n'y a pas de raison de ne pas le faire ». Et la galerie cinéma est la bonne maison pour toi. Et toute cette aventure qui a été la première rencontre, les premiers dessins qu'il m'a montré, ensuite le livre, le travail qu'il a fait avec Agnès Dahan, pour arriver à enfin oser montrer ses dessins sur un mur, sur les images d'une galerie, ça a mis du temps. Ça a mis à peu près 2 ans entre le premier moment ou le premier jour où il m'a parlé de ses dessins et le vernissage de l'exposition. Et tout ce moment a été très important et très précieux pour faire jaillir sa confiance et son envie d'exposer.
Il a fallu plus de 40 ans pour que vous acceptiez le fait de montrer vos dessins.
Bah, faut un certain culot, hein, pour se dévoiler. En plus, c'est des choses que j'avais, comme on a dit, dans des carnets, des choses que je montrais pas. Donc, qui étaient personnelles, intimes.
On se dévoile plus avec le dessin qu'en étant acteur?
Ah oui, je trouve, ouais. Bah, acteur, on emprunte un texte, une vision d'un metteur en scène, des mots qui sont pas forcément les nôtres.
Et on va chercher vos émotions.
C'est vrai. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que les émotions sont, mais bon, on triche un peu, enfin ça dépend, on apprend à tricher en tout cas. Donc ça va.
Vous êtes plus vous et plus vrai quand vous dessinez?
Oui, je pense, ouais. J'ai la sensation de moins tricher. Je sais pas si c'est vrai. Quand je dessine, je vois tout de suite quand c'est pas de moi, quand j'emprunte un style, quand d'un coup je suis inspiré par quelque chose qui est pas vraiment de mes tripes, de un truc, voilà. Que le dessin soit bon ou pas bon, hein, ça se sent quand on n'est pas soi.
Le cinéma vous a happé, vous devriez être dessinateur ou auteur de livres pour enfants peut-être aujourd'hui?
Ouais, c'est ça, je prévoyais ce métier d'illustrateur pour livres pour enfants parce que je trouvais que c'était un endroit où on pouvait encore rester très libre dans la forme du dessin. Dans les livres pour enfants, si on regarde bien, il y a plein de choses, il y a de la peinture, il y a de l'encre, il y a du crayon, et puis on peut faire des dessins très concrets ou très abstraits, enfin, c'est vraiment très riche.
Lui en voulait parfois au cinéma de vous avoir détourné?
Non, parce que j'ai appris des choses incroyables et puis le cinéma c'est un voyage, hein, comme on l'a dit. Donc non, je me réalise très bien aussi dans ce métier, ça va. Mais c'est vrai que c'est très agréable après avoir fait l'acteur de se retrouver seul dans une autre concentration et d'essayer de se prouver qu'on peut faire autre chose et que le dessin arrive et que il y a aussi un travail avec le dessin, une recherche et qu'il sort quelque chose de ça.
Anne-Dominique Toussaint, Agnès Dahan, quel a été l'accueil à la fois du livre et de l'exposition? Comment les gens ont réagi? Je vais pas demander ça à Romain Duris, il serait peut-être un peu intimidé.
Pour ce qui concerne l'exposition, il y avait évidemment énormément de monde qui venait aussi par curiosité pour voir qu'est-ce que Romain Duris allait proposer, parce que comme c'est un personnage connu, public, un acteur que les gens aiment, ils allaient voir l'exposition par curiosité. Et puis après, ils étaient assez saisis, étonnés par cet élan qu'ils voyaient, cette profusion de choses, cette énergie. Et l'exposition a vraiment très très bien marché. C'est une des expositions qui a le mieux marché à la galerie.
Quand vous dites bien marché, c'est bien vendu?
Bien vendu, oui. Mmh. Bien marché, bien vendu. Enfin, il y avait à la fois beaucoup beaucoup de monde et en même temps beaucoup de ventes. Oui,
ça coûte cher à Romain Duris?
Alors, il y a eu beaucoup de choses. Alors, justement, pour l'exposition, c'était un peu compliqué parce que Romain ne voulait pas tellement se séparer de ses dessins originaux. Et en plus, comme on a dit, il y avait beaucoup de carnets et d'agendas. Et donc, c'était compliqué de les découper et de les vendre. Donc, on a dû réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on allait exposer. Et il y avait plusieurs choses. Il y avait des sérigraphies de certains des pages de ces agendas. Il y avait des lithographies. Ça aussi, c'était un moment très, très beau d'aller fabriquer les lithographies à l'atelier ITEM. Et il y avait quand même quelques dessins originaux. Donc évidemment, les prix variaient beaucoup. Une sérigraphie, alors j'ai plus les prix en tête, mais valait évidemment moins de 1000 euros, quelques centaines d'euros. Une lithographie autour de 1000 euros et les dessins originaux un peu plus.
Ça doit être émouvant d'avoir son premier cachet de dessinateur.
Ouais, enfin, je sais pas, c'était étrange.
Étrange.
L'argent mêlé à tout ça, ouais, je suis pas très,
bah oui, parce qu'il y a,
très à l'aise.
Il y a un marché, effectivement.
Ouais, ouais. Hum. Non, comme si j'avais pas envie de le voir. Mais par contre, de voir des gens dans la galerie, ça, c'était très, ouais, c'était très, ça, c'était émouvant. Ouais.
Le reggae, est-ce qu'il a toujours autant d'importance dans votre vie, Romain Duris?
J'en écoute moins, parce que je suis un peu plus speed, là. Je suis un peu plus nerveux avec l'âge, peut-être. Mais,
Et du coup, vous écoutez quoi, en étant plus nerveux?
Du hip-hop, de l'électro, je sais pas, il y a beaucoup de musique plus speed, mais enfin, je dis ça.
Vous connaissez le Jamaïcain Winston McAnuff?
Alors, il faut que j'écoute le son.
Sa chanson My Angel fait partie de la playlist de France Inter et il est accompagné de l'accordéoniste Fixie.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Box. Say you wanna take time just to change your state of mind. Don't wanna complain about the abuse. It sometimes makes you a little bit furious. You don't want no cocktail. You don't want no champagne. You don't want no cookie. You like the modern loving. And you love your soul. My angel on earth. You're more than you worth. My angel on earth. This morning on my cell phone, before I started reading, I felt my heart a bleeding. You don't like your good advice. You ain't my no silly guy. You don't want no cocaine. You don't want no champagne. I don't want no cocktails. You love the Maralabi.
Jean-Michel Basquiat, peintre noir américain, artiste météore, mort à 28 ans d'une overdose d'héroïne, démarre dans le graffiti des rues. Persuadé de son génie, orphelin de toute culture, il invente la peinture mure où passe l'ombre ancestrale du masque africain. Dans les années 1984-86, au plus haut de sa gloire et de sa cote, Basquiat crée énormément et retrouve le chemin de la peinture permanente, l'obsession du corps détruit, de la mort, de l'urgence.
Romain Duris, si je vous dis le peintre américain Jean-Michel Basquiat, qu'est-ce que vous me répondez?
Ah, sublime. Bah, ça aussi c'est un jet, comme tu disais, Anne-Dominique. C'est une énergie, c'est un... D'ailleurs, je trouve que tous ceux qui essayent de faire du Basquiat, c'est grotesque, quoi. C'est parce que c'est vraiment tellement pur et sensible. et tellement lui, toutes ces toiles, qu'on peut pas le copier, c'est vulgaire.
C'est vraiment les années 80, New York, la rue, il meurt à 28 ans. Une œuvre, vous le disiez, effectivement, pleine de nerfs et de vitalité. Et il y a 120 de ses œuvres qui sont réunies en ce moment à la Fondation Louis Vuitton, dans le 16e arrondissement de Paris. Et Elsa Denac propose d'en faire une première visite sonore, si vous êtes d'accord. Sa guide, c'est Suzanne Paget, qui est la directrice artistique de la Fondation Louis Vuitton.
Le premier chapitre de l'exposition, ça s'appelle « L'atelier de la rue ». Il a été en rupture avec sa famille, il a claqué la porte, il a été dans la rue. Mais dans la rue, on est dans la rue.
Et donc il peignait dans la rue.
Il était, il crêchait, il faisait tout dans la rue. Dans la rue, la réalité, c'est qu'on prend ce qu'on a sous la main. Et donc là, vous voyez une porte. Une porte encore avec ses gonds, la porte nature. Hein. Vous voyez l'emplacement des vitraux, il a utilisé tout ça. Vous avez déjà des éléments de son vocabulaire. Un décor de rue, une couronne, des bâtonnets, des écritures, etc. Et un personnage noir, là, à droite, qui est lui, avec la couronne de roi. Reds, blues, greens, blue fucking rainbow. Les héros sont toujours noirs. Les héros, c'est les rois noirs, les boxeurs, les musiciens. Ce sont ces héros. Avec sa mère, il allait dans les musées, quand il était jeune. Là, il voyait qu'il n'y avait pas de noir. Il n'y avait pas de noir dans les salles, de visiteurs noirs. Il n'y avait pas non plus de noir sur les murs. Il n'y avait pas d'artistes noirs. Il s'est donné vraiment une mission, c'est de faire que la figure noire entre dans les musées. Et ça a été le combat de sa vie. Courte, très courte. Pour un artiste noir de cette époque, ça a été extrêmement dur. Il y a deux figures assez terrifiantes. Il y en a un qui s'appelle Ironie d'un policier noir et il l'a affublé d'une jambe animale parce que c'est le grand traître. C'est un personnage comme ça, très frontal, qui vous regarde. Et l'autre à côté, qui est encore plus terrifiant, lui, c'est Lara. Et alors, vous voyez ce personnage avec des yeux qui vous torpillent, hein, rouges comme ça, le fond rouge, les grands traits de peinture gris. Franchement, on prend des distances quand on voit un machin comme ça. Et c'est ça qui voulait donner comme impression, c'est que les policiers étaient terrifiants. Et d'autant qu'il a vu un de ses très proche ami, complètement doux, innocent et tout, et qui a été tabassé, ça fait un grand scandale, tabassé à mort. Et lui a été complètement traumatisé. Il avait un peu le même âge, et il a réalisé que ça aurait pu être lui. On voit un mort-vivant extrêmement vivant, on voit toujours l'extérieur, l'intérieur. Il aime beaucoup décrire ce qu'on voit derrière, l'intérieur du corps, l'anatomie. On voit aussi des tas de signes dessus, qui sont en partie ésotériques, on ne les lit pas. Il a très souvent dans ses tableaux des écritures qui sont polysémiques, et donc qui ont plusieurs sens, c'est ceci et ceci encore et peut-être ceci. Très souvent, quand il utilise les mots, il enlève les voyelles. C'est P-R-K-R, c'est Charlie Parker. Tous les signes graphiques, les bâtonnets, etc. C'est le vocabulaire de base de Jean-Michel Basquiat.
Et à chaque fois, ça fournit. On a envie de se plonger dedans, oui, et de voir, il y a des petits mots ici, un petit graphique ailleurs.
Écoutez, on est scotché là. Il faut vraiment le regarder.
Donc on a toujours les corps, on a toujours la rue, on a toujours la figure noire. On a des rapports aussi des symboles christiques ou les rois.
Les écritures, les collages... On dit que c'est toujours les mêmes ingrédients, sauf que le tableau est toujours très différent. Donc on va monter. Parmi ces héros, les boxeurs, Cassius Clay et Sugar Ray Robinson. Et donc ils ont des couronnes. Ça c'est couronne de roi. Cassius Clay, Mohamed Ali, c'était son grand héros. I'm the
king of the rain. Il y a beaucoup de couches tout le temps.
Sans arrêt, il peint en transparence, il recoupe. C'est les techniques de la copie et du hip-hop. Hein. Au fond, le street art, c'est lui, d'emblée. On va monter au dernier étage. Là, il fait allusion à la vente des esclaves. On voit qu'au-delà de la force de la peinture, du personnage, des dessins et tout, c'est les couleurs, les grandes plages de couleurs très audacieux. Des verts, des roses, des jaunes oranges, des jaunes citrons, avec quelque chose de très impulsif tout le temps, mais une maîtrise aussi.
Alors que Basquiat, quand on pense à lui, on ne dirait pas en premier, oui, c'est un peintre.
C'est en effet un dessinateur, un peintre exceptionnel. Ah, il est un poète, un musicien aussi.
Quel que soit l'art qu'il pratique, l'énergie est la même.
Oui, et l'énergie combative. Vous voyez, je crois que ça en donne un peu plus. C'est un corps jeune combatif, pour une cause.
I said, why is Jesus white with blonde and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men?
C'est un artiste très contemporain. Il s'adresse de façon universelle au monde. Il a toutes les cultures du monde. Il pouvait tout combiner. Le vaudou, de la Bible, l'Égypte, Matisse.
Les comics.
Oui, toutes les cultures. Et ça, c'est une attitude d'aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on apprend d'un Jean-Michel Basquiat quand on est dessinateur comme vous l'êtes, Romain Duris?
L'énergie combative, j'aime bien ce terme. Est-ce qu'il faut se battre pour créer? C'est possible.
C'est vrai?
Je me dis qu'il y a sûrement des combats, que ce soit intérieur ou pas, ou plus large, pour pouvoir créer, sûrement. Ouais.
Vous avez parlé de combats, il y a des combats dans le film de Guillaume Sénès, Nos batailles. Vous êtes un père de famille, votre femme vous quitte et quitte aussi ses enfants, vous ne savez pas du tout où elle est partie. Et puis vous avez aussi des combats à mener dans une usine. C'est un film qu'on dit social, un cinéma qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir en France, après tout.
Oui. Je ne sais pas quel terme employer, c'est pas naturaliste, c'est pas cru, mais c'est très concret en fait. Et c'est très sur l'émotion que tout ça génère. Donc il n'y a pas quelque chose qui prend le pas sur l'autre, que ce soit sa vie familiale, sa crise familiale, ou l'usine et les gens pour qui il se bat, puisqu'il va même jusqu'à se syndicaliser, donc il est très investi dans son travail. Mais tout ça se mélange et on sent un homme qui est constamment dans la recherche de cette femme qui est partie, dans d'essayer de comprendre, dans une introspection, aidé par d'autres femmes qui vont être sa sœur, sa mère, sa collègue de travail. Je pense qu'il va grandir pendant tout le film. Mais tout se mélange et tout est sensible, tout est à fleur de peau. Et c'est ça qui me plaît. Chez ce gars qui, au départ, travaille dans une usine, où il y a peut-être une virilité plus présente au point de départ du film. D'un coup, avec toutes ces femmes qui l'entourent, il va, comme ça, avec des sensations, des sentiments, de la fragilité, il va être un peu meilleur qu'au départ.
On écoute un extrait, un moment justement de tension avec votre chef à l'usine.
Regarde.
Non.
Tu remarques pas les bonnets, les gants, tout ça? Tu trouves pas qu'il y a un petit problème là? Enfin, je sais pas, on en a déjà parlé, le chauffage, il n'y a pas...
On en a déjà parlé, ouais, il y a du chauffage. Hein.
Non, il n'y a pas de chauffage. Moi, j'ai froid et c'est pas normal qu'ils travaillent comme ça.
Mais pourquoi tu me reparles du chauffage?
Parce que je trouve que c'est pas normal qu'on travaille comme ça.
Et bah,
on
si
perd
tu
du
trouves
temps,
que
on travaillerait plus vite. Je suis chef d'équipe, ok? Et je trouve pas ça normal qu'on s'occupe pas des conditions de travail des employés.
Tu veux vraiment qu'on discute des conditions de travail? Écoute, si c'est trop difficile, si ça vous convient pas, vous pouvez aller voir ailleurs, d'accord? Je pense que dehors aussi, il fait froid. Tu vois ce que je veux dire?
Il réussit pas mal de choses, Guillaume Sénès. Il réussit à parler d'une certaine tragédie d'un homme qui est quitté par sa femme et qui se retrouve avec ses enfants seul, mais aussi de ce que c'est que la vie en entreprise aujourd'hui. C'est ambitieux.
Ouais, tout ça avec une grande pudeur et assez finement. Parce qu'il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de... Je pense qu'on n'entraîne pas le spectateur par la main en lui montrant « Regarde, il n'y a pas de comme ça, c'est très fin. C'est en toile de fond. Il y a une très grande injustice dans ce lieu de travail. » Qui existe hein, dans certaines usines, à rendement, côté en bourse, il y a des grandes injustices. Mais c'est en toile de fond. Le spectateur est libre de s'insurger ou pas. Enfin, je veux dire, que ça le fasse de l'effet ou pas. C'est très beau et ce personnage qui se bat tout le temps.
Qui se bat et puis effectivement, vous le disiez, qui se transforme. C'est un film sur la transformation d'un homme.
Ouais, parce que le point de départ était quand même ce type qui finalement est beaucoup plus généreux et disponible avec ses collègues de travail. Que avec ses proches à la maison. Donc c'était marrant d'avoir ce contraste-là. Mmh. Il était capable de se battre corps et âme dans les bureaux de la direction de l'usine pour des gars avec qui il bosse. Et puis par contre, chez lui, avec ses amours plus concrets, qui sont sa femme, ses enfants, le mec est beaucoup plus maladroit.
Oui, effectivement, on peut comprendre moment pourquoi sa femme est partie, effectivement. On s'interroge pendant le film et on peut comprendre des choses.
Oui, il est un peu bourru au départ. Mmh.
Alors il vous fait jouer, Guillaume Sénès, des choses que vous n'aviez pas encore forcément jouées à l'écran. Travailler dans une usine, moi j'ai pas le souvenir de vous avoir vu là. Je n'ai pas le souvenir de vous avoir vu avec des enfants à l'écran si souvent que ça.
Quelques enfants, oui, mais sur un autre ton. Chez Clapiche, il y a eu des enfants déjà.
Oui.
Mais c'est
peut-être un peu plus rapidement.
Oui, Ouais.
Et vous disiez tout à l'heure que le cinéma, c'était bien parce que ça vous faisait vivre des choses que vous n'aviez pas prévu de vivre ou pas encore vécues. Et vous disiez que vous aviez chanté dans à Paris de Christophe Honoré. Alors, on avait envie de retrouver un peu cette scène, parce que vous êtes au téléphone avec votre amoureuse et vous chantez. Et puis ensuite, ce sera la version enregistrée par Alex Baupin, qui a écrit la chanson, et Camélia Jordana.
Sais-tu, ma belle, que les amours les plus brillants ternissent le sale soleil du jour le jour, les soumet au supplice. J'ai eu une idée inattaquable pour éviter l'insupportable avant la haine, avant les coups sifflet ou de fouet avant la peine et le dégoût.
Brisons-la s'il te plaît.
Non, je t'embrasse et ça passe. Tu vois bien, on se débarrasse pas de moi comme ça. Tu croyais pouvoir t'en sortir en me quittant sur l'air du grand amour qui doit mourir. Mais vois-tu, je préfère les tempêtes de l'inéluctable à ta petite idée minable avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet.
Mais tu m'embrasses et ça passe, je vois bien, on se débarrasse pas de toi comme ça. Je pourrais t'éviter le pire,
mais le meilleur est à venir.
Avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût. Brisons-la s'il te plaît.
Non, je t'embrasse et ça passe. Tu vois bien,
avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût. Mais tu m'embrasses et ça passe, je vois bien. On se débarrasse pas de toi comme ça.
On se débarrasse pas de moi comme ça.
Elle est belle cette chanson. Romain Duris, vous êtes. Je ne veux pas dire que vous êtes ému, mais j'ai senti que.
Non, mais la voix de Camélia Jordana, c'est.
Ouais, un peu amoureux.
Il n'y a pas mieux. Non, mais moi, j'attends le disque de blues. Il faut un disque de blues de Camélia Jordana.
Elle est comédienne maintenant.
Oui, bah moi, je lui commande un disque de blues. Il faut qu'elle chante du blues en français, en anglais, peu importe. Mais...
C'était facile de travailler avec lui, Agnès Dahan ?
Pas tous les jours.
Pas tous les jours. Un petit caractère. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie d'être venu, mesdames. Première radio, encore une fois, de notre graphiste invité par Romain Duris, Agnès Dahan. Merci, madame la productrice et directrice de galerie et la galerie cinéma. Merci. Vous leur dites un petit mot avant qu'elle ne parte, Romain Duris?
Bah, merci. Je vous aime. Changez rien. Vous êtes magnifique.
Et on
merci.
Se retrouve juste après les infos.
C'est quoi ce bordel avec l'amour là? Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point? T'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus? Quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Quand t'as quelqu'un, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je l'aime vraiment? Et est-ce qu'elle m'aime autant que moi, je l'aime? Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie? Pourquoi on se sépare? Est-ce qu'on peut réparer les choses quand on sent que ça se barre en couille? Toutes ces questions à la con qu'on se pose tout le temps là. Toi, on peut pas dire qu'on y connaît rien, on est préparé quand même. On lit des histoires d'amour. On lit des contes, on lit des romans d'amour, on voit des films d'amour, l'amour, là.
Romain Duris, deuxième partie. Extrait de quel film ?
Un film de Clapiche qui doit être pas Castet chinois, mais avant.
Ça commence par Poupée. Les Poupées russes, 2005. Avec Clapiche, contrairement à Sénèze qui vous a souvent proposé d'improviser avec vos partenaires masculins et vos partenaires féminines dans Nos batailles, j'ai l'impression qu'avec Clapiche, c'est plus écrit. Que le scénario
c'est très
est plus écrit.
Clapiche est très doué pour les dialogues, mais à l'onomatopée près. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, si on veut, de prononcer tout, et même les trois petits points, ça marche. Il a une très grande facilité, comme ça. Je pense qu'il doit peut-être les jouer, ou les faire entendre avec ses collègues avec qui il écrit, mais c'est toujours très très juste, ouais.
Les deux méthodes vous plaisent?
Oui, dernièrement, la méthode de Sénèze m'a fait beaucoup de bien, parce que là, pour le coup, donc il avait un scénario pour le film Nos batailles, sans dialogue, un traitement. Donc, on recevait, nous les comédiens, des descriptions des scènes, en quelques lignes, très précis, hein. Et après, il fallait improviser avec nos mots. Lui a une version dialoguée, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de peur qu'on se retrouve sans rien, parce que lui, il a cette sécurité-là. Du coup, ça crée de la vie, ça crée des accidents, ça crée plein de choses qu'on aime au cinéma.
Et vous qui avez plus de 24 ans, qui avez 24 ans de métier, vous n'avez jamais travaillé comme ça?
Est-ce qu'il non, y a aussi radicalement, non.
Une angoisse à appréhender ce tournage?
Non, parce que finalement, c'est toujours la même histoire, c'est de se jeter à l'eau. Et une fois qu'on est dedans, il faut bien se démerder avec des mots et de l'écoute. Hein. C'est beaucoup de l'écoute aussi. Non, il y a quelque chose de très sain dans ce procédé. Mais de très respectueux, parce que dès qu'on écoute la personne en face, on se dit « Tiens, elle amène ceci, bah moi attends, je vais lui répondre cela. » Enfin, il y a quelque chose qui est un moteur pour tout le monde. J'ai vraiment adoré cette méthode.
Vous êtes fidèle au cinéaste, je pense à évidemment Clapiche, 7 films plus un clip, dans mon souvenir. Hein. Donc une fidélité, vous le voyez vieillir et il vous voit vieillir et vous aimez ça tous les deux, on peut le dire. Hein. C'est certainement pas terminé. Vous serez un vieillard chez Clapiche.
Un peu moins dernièrement, mais c'est clair que ouais, la fidélité, ça a du bon. Hein.
Il y a aussi Honoré, 2 fois, mais 2 fois importantes.
Ouais.
Je pense à 17 fois Cécile Cassard avec la merveilleuse Béatrice Dalle. Et puis ensuite, il vous a rappelé, on l'a entendu tout à l'heure, pour Dans Paris. Ouais. Il est comment, Honoré, sur un plateau?
C'est très agréable. Alors, c'est un mot qui veut dire beaucoup et pas grand-chose. C'est pris sur le vif aussi un petit peu. Il y a cette énergie que j'ai retrouvée chez Sénèze, de l'instant qui est capté. C'est assez furtif. On se pose pas dans les scènes. Il n'y a pas beaucoup de prises. Il y a un truc comme ça qui est très, du coup, très précieux, très pris sur le vif.
Hier, je lui ai mis un mot sur Facebook.
Waouh. Hmm, vous faites ça aussi?
Oui. Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien que vous me donniez des idées sur Duris, que vous me disiez quelque chose de lui. Alors voilà ce qu'il m'a écrit.
Oula.
C'est un des comédiens les plus concentrés, les plus précis que j'ai croisés. Il est difficile de l'approcher. Il se protège beaucoup, mais il est toujours investi. Et il a ajouté, c'est compliqué de parler de lui. Alors je lui ai dit, vous voulez qu'on vous passe un coup de fil demain, etc. Il dit, non, je vais vous envoyer un texte que j'ai écrit sur lui. Et je l'ai fait lire à un camarade de la radio. Voilà ce qu'écrit Honoré sur Romain Duris.
Quand je pense à Romain, je vois un garçon partagé en 2 parties, mât et drapeau. Le sourire flotte au-dessus d'un cintre d'épaules pétrifié. Le sourire contredit la permanence de son maintien. Terre et vent. Une pierre qui remue, ondoie dans les courants. Le sourire comme une girouette. Quand je pense à Romain, je vois un corps d'aplomb. Le cinéma français a rarement affaire à des acteurs fermes, droits, tendus et dans le même mouvement, gracieux, drôles, doux. Romain a imposé son corps point d'exclamation dans des scénarios habitués au corps parenthèse. Il a apporté à tous ses films de la précision, du tranchant. Dans les années 50, il n'aurait pas été une figure à la Gérard Philippe, mais à la Laurent Terzieff. Son air de jeu est celui de la poursuite, une lumière qui aveugle. Ce n'est pas une douce lumière d'arrière-saison, ce n'est pas un souvenir du bonheur. C'est un soleil à midi, perpendiculaire, une force qui accable, une tragédie annoncée. Ce terrain de jeu, peu de cinéastes n'ont proposé à Romain. Tous séduits que nous sommes par la chaleur qu'il dégage. Peu, aucun, n'a encore osé placer Romain dans une fiction de midi en plein soleil, corps debout et froid en attente du pire. Mais lui s'y prépare depuis longtemps à cette fiction fanatique. Christophe Honoré.
Beau cadeau?
Oui, c'est très émouvant. Hein. Je n'ai pas l'habitude d'entendre des trucs comme ça.
Et c'est un écrivain à la base, hein, Christophe Honoré.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il a saisi de vous?
En tout cas, il m'a imposé une tranquillité. C'est vrai que dans ses films, je ne suis pas dans le même rythme. Souvent, il nous impose, mais comme vous, par exemple, vous le faites à la radio, là, en ce moment, une espèce de quiétude. Et ce qui est un bon exercice parce que ça pousse radicalement les acteurs dans autre chose, une autre façon de parler, une autre façon de se comporter physiquement. Il a aussi beaucoup de poésie. La poésie, c'est pas évident au cinéma, je trouve. C'est casse-gueule. Et chez Christophe Honoré, ça, je trouve que ça marche. Ça tient debout, quoi.
Vous voulez qu'on écoute de la musique?
Ouais, allons-y.
C'est vrai que vous aimez Prince?
Ouais.
Et si on écoutait Kiss?
Ok.
Ça vous fait plaisir, Prince? Je vois votre sourire à la Romain Duris.
Ah oui, c'était unique. Les afters de Prince dans les boîtes parisiennes tenues secrètes jusqu'à 2-3 heures du matin dans Paris, c'était encore ce qu'il y avait de mieux. Ouais.
Dans les années 90?
Ouais, même pas si vieux, il n'y a pas très longtemps.
Vous sortez beaucoup?
Pour Prince, il fallait sortir. C'était fou, il jouait beaucoup de funk et de blues dans ces moments-là. C'était pas que ce qu'il y avait dans les albums.
Vous avez pu le voir assez souvent?
Ouais, plusieurs fois. Et c'était assez fou parce que ça, il y avait un espèce de moment comme ça arrêté avec ce public, tous dans les salles et au Bataclan, je pense, plein d'endroits dans Paris. Et tout le monde était conscient que c'était unique et qu'il fallait en profiter, quoi.
Vous lui avez parlé?
Non, on s'est frôlé.
Quand vous le regardiez, vous pensiez à un rôle éventuel, à sa façon de bouger que vous pourriez emprunter? Est-ce que ça peut revenir, ça, d'avoir vu Prince?
Oui, mais j'ai trop de respect pour tout ce qu'il fait, pour de la musique. Après, moi, j'ai un rythme que je garde avec moi. Oui, il y a des films où j'écoute beaucoup de Prince parce que ça me... Je sais pas, ça me... Tout de suite, c'est dansant, quoi.
Ah, vous préparez les rôles en musique?
Ça m'est arrivé, oui.
Le Nouvel Obs disait récemment de vous que vous aviez un corps de danseur.
Ma mère était danseuse, donc ça doit être dans les gènes. J'aime beaucoup la danse, j'ai toujours aimé danser.
Chez vous, entre autres?
Chez moi, puis dans la nuit.
Ah, vous sortez?
je sors comme tout le monde.
Non, vous êtes censé dessiner et travailler.
Oui, je sors aussi la nuit. Dans Paris, d'ailleurs, je trouve que ça, en ce moment, j'attends des endroits. Ça manque un peu, là, oui. Faut le dire à Anne Hidalgo.
Elle écoute le Grand Atelier.
Ok.
Ça tombe bien. On a un chorégraphe avec nous au téléphone avec qui vous avez travaillé sur Coltès en 2012 avec Patrice Chéreau. C'est Thierry Tionyang. Bonjour, monsieur Tionyang.
Bonjour tout le monde. Bonjour,
salut,
Romain.
Salut, Thierry.
Quel souvenir avez-vous de Romain Duris en train de bouger sur un plateau quand vous répétiez La Nuit juste avant les forêts, Thierry Tionyang?
Tout à l'heure, vous disiez que c'est un danseur. Pour moi, Romain Duris a toujours été un danseur. J'ai toujours vu comme ça. Dans le travail, dans certains rôles, je me souviens d'avoir vu chez Tony Gatliffe, même dans De battre mon cœur s'est arrêté, et puis de voir travailler avec Patrice Chéreau, ça a été merveilleux parce qu'il a proposé des choses. Patrice était fasciné de voir l'intelligence, l'instinct, la physicalité de Romain, et pas simplement dans le corps, mais aussi au travail de la pensée, au travail de la langue. Et c'est un très beau souvenir, enfin, pour moi. Je pense que ce qui s'est passé dans le travail et sur Persécution et puis sur La Nuit, c'était un moment très fort de voir juste un acteur chercher dans une immobilité, puisque Romain, le pauvre, était allongé pendant très longtemps dans un lit. Et ces micro-mouvements, cette intensité, ces petits gestes qui devenaient une danse, voilà, c'est un danseur pour moi aussi. Si je faisais une chorégraphie, je pourrais faire une chorégraphie pour Romain Duris sans problème.
Ah, et ça donnerait quoi? Alors, à quoi vous pensez?
Ah, ben je sais pas, mais de mettre en rapport avec un musicien sur un plateau et chercher un rapport entre, un saxophoniste, un guitariste et Romain. Une danse physique, rythmique, une danse sans texte. Romain peut, je pense, pendant une heure, être sur un plateau sans texte et simplement par son mouvement nous raconter des choses.
Ah bah il faut qu'on s'y colle parce que justement, quand on me pose la question à chaque fois, est-ce que tu passerais derrière la caméra? Parfois, je me dis, tiens, ouais, mais dans ce genre de film-là, sans texte, plutôt de la danse. Bon, après, je suis pas danseur, hein, il faut faire aussi avec ce qu'on est, tout ça, c'était aussi beaucoup grâce à toi, Thierry.
Il y avait donc le metteur en scène Chéreau et aussi Thierry Tionyang qui vous accompagnait. Ouais. Mais en quoi il vous a aidé, ce chorégraphe et son métier?
Ce qui était fou, c'était comme dit Thierry, c'était que c'était un lit d'hôpital. Patrice avait choisi ça pour La Nuit juste avant les forêts. Donc il y avait une économie de mouvement. C'était vraiment des micro-mouvements.
C'est Thierry, un long monologue.
Un très long monologue. Et du coup, que Thierry, qui ait cette habitude du corps et cette connaissance de la danse, nous donne des idées de descendre de ce lit et que ce soit pas juste du concret comme dans la vie, mais qu'il y ait aussi une exigence un peu de danse, ça a créé une chorégraphie magnifique que j'ai pu jouer pendant plein de soirs, quoi. Donc c'était bien d'avoir travaillé ça avec Thierry.
On va écouter Patrice Chéreau nous expliquer pourquoi, à l'époque donc, il avait choisi Romain Duris pour jouer ce Coltès qu'il n'avait jamais mis en scène, alors qu'il avait au moins mis en scène 4 pièces de Coltès.
J'avais fait des essais avec Romain pour Persécution, le film que j'ai fait avec lui. Et ces essais, il se trouve que je les avais faits sur Roberto Zucco. Et j'avais été frappé par l'adéquation qui semblait exister entre Romain lui-même, la personne de Romain, et un texte de Coltès. Et je me suis dit, quelque part, Romain devrait lire des textes de Coltès. Voilà. Au début, je pensais seulement lire. Et puis, il est venu voir à Reims la lecture que je faisais de Coma. Il l'a vu et sa première réaction était de dire « Mais moi, je veux pas lire, je veux jouer, je veux apprendre le texte. » Je crois pouvoir dire, Thierry et moi, on a découvert un acteur avec des réflexes incroyables, avec une force incroyable, et une grâce et une capacité de transformation surtout, de modification et d'apprentissage rare, on va dire, sidérante même.
Encore un mot qui revient souvent dans la bouche des cinéastes et metteurs en scène qui ont travaillé avec vous, surtout cinéastes, Romain Duris, c'est « Il est bon pour l'apprentissage, quoi. Il travaille et il apprend. »
Ouais, chose que je ne peux absolument pas qu'on voit, évidemment. C'est le but, un peu. Mais je pense que je peux pas avancer sans tout ça.
Qu'est-ce qui vous a appris, Chéreau?
Oula, c'est très riche, hein, c'est très précieux. J'y pense tous les jours. Il m'a appris l'exigence de l'instant, du mot ou du geste, mais que ce soit toujours incarné et qu'on puisse le renouveler avec une nouvelle prise ou un autre soir au théâtre. Avec Patrice, il y avait une grande connaissance de la direction d'acteur, hein, hallucinante.
Vous avez dirigé effectivement, Thierry Tienhuang le disait au cinéma dans Persécution, et puis 3 ans après sur ce plateau avec Thierry Tienhuang. C'était quelqu'un qui était même physiquement très proche des comédiens, il les dirigeait presque devant eux.
Hein. Ouais, c'était un sculpteur presque, comme s'il faisait une sculpture et qu'on était quelque chose de changeant. Il me manque tous les jours, Patrice.
Thierry Tienhuang, que retenez-vous du travail avec Patrice Chéreau ? La question est vaste, mais comme ça, tout de suite, qu'est-ce qui vous vient ?
Ben, j'ai envie de répéter tout ce que vient de dire avec émotion Romain, et j'en suis très ému aussi, parce que moi aussi, c'est quelqu'un qui manque, c'est quelqu'un avec qui on pouvait parler de petites choses comme de grandes choses, d'être au plus près des corps, au plus près des textes, au plus près de la vie. C'est quelqu'un aussi qui était très drôle, qui aimait aussi rire, regarder les gens, regarder le monde. J'ai appris à ne pas avoir peur, Patrice m'a appris ça, ne pas avoir peur au travail, que je sois dans un hôpital, que je danse avec des personnes atteintes d'Alzheimer, que je danse avec des danseurs migrants. En ce moment, je danse avec des danseurs migrants qui viennent de Syrie, d'Égypte, dont je connais pas tout à fait les codes ni la langue. Mais j'ai pas peur, tout à coup, de rentrer dans un autre corps, dans une autre langue et d'inventer. Soit c'est Patrice qui m'a vraiment donné le fait que c'est dans le travail aussi qu'on devient meilleur, qu'on devient curieux, qu'on devient vivant.
Avec cette nécessité de travailler énormément, Chéreau travaillait beaucoup. Je pense qu'il vous transmettait ça aussi aux personnes qui travaillaient avec lui, Thierry Tienhuang.
Oui, et comme disait Romain, on travaillait, mais chaque jour, on pouvait remettre ce travail à l'ouvrage, on pouvait le déplacer, moi qui travaille là-dedans, qui travaille les corps au quotidien, au jour le jour, je vois vraiment que c'est vraiment dans le présent que le corps se réinvente, que la pensée se réinvente, ben que le cœur se réinvente aussi, qu'il faut chercher au présent aussi et le remettre au travail tout le temps.
Le mot travail avec Chéreau, ça, des choses vous reviennent, Romain Duris ?
Bah oui, c'était passionnant. Je veux dire, les moments de répétition, c'est pas qu'elles étaient presque plus passionnantes que la pièce en elle-même, mais elles avaient autant de valeur que
d'autant qu'il y avait
la représentation.
Vous n'aviez pas un grand apprentissage du théâtre alors ?
Pas du tout. C'était la première fois que j'en faisais. Et heureusement que c'était avec Patrice, parce que Patrice était presque le plus fort pour nous faire goûter le silence et les moments où il n'y a pas franchement de mots et comment incarner ces moments-là sans être vide, sans être artificiel. Donc ça m'a servi énormément, encore aujourd'hui.
Merci Thierry Tienhuang d'être venu faire un saut de chat dans le grand atelier de Romain Duris. On va écouter le générique de fin du film Persécution. Vous vous souvenez quelle musique était utilisée à ce moment-là du film ?
Non, je m'en rappelle pas.
C'était Anthony and the Johnsons.
Ok.
Le grand atelier, Vincent Josse sur France Inter.
Sometimes the wind blows and you and I
Qu'est-ce qui était génial, Romain Duris?
On parlait du Louvre, de ce qu'on avait fait avec Patrice Chéreau.
Ah, vous avez créé cette pièce, vous avez joué cette pièce pour la première fois au Louvre.
Juste avant les forêts, voilà. Puisqu'il c'était magnifique de jouer avec la Joconde derrière, hein, ouais. Et le radeau de la Méduse, donc il fallait être à la hauteur. Hein. Les œuvres entendaient le monologue.
Ça vous a porté un peu tout ça?
Porté, non, ça m'a impressionné, ça m'a intimidé, il a fallu que je les oublie. Et en même temps, ça donnait quelque chose d'incroyable, comme si on jouait dans une église, enfin, il y a quelque chose comme ça, une dimension... Et je disais que la première était, j'étais pas bien du tout. Que celle d'avant, j'étais bien. Enfin bref, le théâtre, c'est comme ça. Hein.
Ouais.
Du coup, je m'entendais parler comme un écho, sans incarner les choses. Donc c'est très frustrant quand on travaille pendant des mois et que d'un coup, la première, on est à côté de ses pompes. Quoi.
Comment on rentre chez soi dans ces cas-là?
Non, comme il y avait deux représentations à la suite, je me suis vengé sur la deuxième. Au moins, je sais pas si elle était meilleure ou si c'était, mais au moins j'étais investi, j'étais vivant dans les mots que je disais.
Nous avons eu des femmes parmi vos invités dans la première heure. Voici les hommes. Vous nous les présentez?
Alors Iñaki, chef cuisinier.
Alors Iñaki, c'est son prénom.
Oui.
Ouais.
Alors son nom.
Vas-y, lance-toi.
Ice Bitarte.
Ice Bitarte.
Ice Bitarte.
Ice Bitarte, oui, très bien.
Bon, ça va.
Non, c'est très bien.
Qui est, je pense, l'être qui fait mieux à manger, en tout cas, sûrement à cette table. Enfin, je sais pas, peut-être vous.
Non, je ne me vanterai de rien du tout.
Et voilà, je suis toujours très bouleversé par ce qu'il fait.
Vous allez dîner chez lui au Châteaubriand.
Oui, au Châteaubriand et au Dauphin aussi, avenue Parmentier. Ce sont deux restaurants qui sont côte à côte.
Et en face de vous?
Et en face de moi, le professeur Karim Fizazi, qui est professeur à l'Institut Gustave Roussy, que je connais depuis un certain temps, et qui est un grand monsieur.
Votre relation avec notre chef basque, quelle est-elle, Romain Duris? Est-ce que vous le fréquentez en dehors, j'allais dire, de la scène? La scène, pour lui, c'est son restaurant, le Châteaubriand.
Je viens souvent le voir parce que c'est pratique, puisqu'il est là tous les soirs. Donc je viens souvent le voir dans son lieu de travail, mais il sait s'en extirper. Il vient discuter à côté, justement, dans ce bar qui lui appartient, qui fait aussi à manger, le Dauphin. Et donc, j'ai l'impression que ça te fait un peu des breaks par rapport au service.
Ouais, c'est
plus...
un peu pour souffler, ouais.
Alors qu'au Châteaubriand, t'as un service plus, quand même, qui te demande d'être très présent, quoi.
Ouais. On se retrouve souvent sur le trottoir, un peu à l'extérieur.
On se retrouve sur le trottoir.
C'est important ce que dit Romain Duris, c'est une forme de convivialité, c'est que vous êtes quelqu'un d'accessible et vous faites en sorte que quand on arrive chez vous, visiblement, on se sente bien. Vous faites très attention à ça, à la manière dont, au-delà du plat, le client va se sentir chez vous.
Oui, je pense que ouvrir une table, c'est total. C'est à partir du moment où les gens arrivent jusqu'au départ. Et je le fais, mais avec... Ce qui est très important pour moi, c'est toute l'équipe qui travaille avec moi. J'insiste parce que c'est vraiment ce que je recherche, c'est vraiment un travail d'équipe, parce qu'on fait pas tout dans un restaurant. Je millimètre pas je fais jamais de briefing, tout ça. C'est un travail qui se fait naturellement, et j'aime bien que mes serveurs soient naturels, les gens qui travaillent avec moi gardent leur personnalité.
J'aime aussi que vos vins soient naturels.
Exactement.
C'est vrai, ça fait partie de votre spécificité.
Ouais, ça fait longtemps que j'ai... Enfin, j'avais fait une formation à l'époque de vin, sur les vins conventionnels, d'œnologie. Donc je connaissais le côté très classique des vins. J'avais étudié à Bordeaux. Et après, en étant devenu chef, je me suis intéressé aux vins et j'ai découvert un jour les vins naturels. Et ça a été vraiment direct, un choc. J'ai vraiment découvert les vins que j'aimais. Ça a été un vrai changement et je m'y suis intéressé depuis longtemps maintenant.
J'ai l'impression que tout ce qui est classique vous ennuie un petit peu, que vous aimez bien les pas de côté.
Ouais, mais j'aime bien jouer avec les notes classiques. C'est quand même le Châteaubriand. Ça fait 13 ans que j'y suis. J'aime l'habiter. C'est un vieux bistrot de quartier avec un côté très classique, justement, de restauration ancienne. C'était plus un restaurant de quartier simple, mais comme ces lieux disparaissent, il prend plus de force dans ce sens-là et j'aime en jouer, j'aime bien tous ces codes et que ça soit sur la vaisselle, sur les habits des serveurs, enfin tout ça, et même les recettes, quelques clins d'œil à la cuisine classique, et même si j'y rajoute ma pâte. J'aime beaucoup jouer avec tout ça.
On va essayer d'être concret avec Romain Duris, qui va nous prêter ses yeux et son palais. À quoi ça ressemble quand on est assis au Châteaubriand?
C'est assez fou, c'est très fin. C'est une cuisson très courte. Tu me dis si je me trompe. Non, c'est un régal, c'est de la poésie, quoi. Chaque assiette.
Qu'est-ce qu'on mange, par exemple?
Oh là là, je suis bien incapable de vous dire.
Alors, la terrine au lard à la poudre de chorizo. Et aussi la crevette à la poudre de framboise.
Ah oui, des petits bouquets bretons ou des crevettes grises de Dieppe. Frites, c'est souvent... En fait, mon menu, c'est un menu dégustation avec qui a une trame. Par exemple, on reçoit quelque chose d'accueillant, c'est toujours une gougère. Après, on part sur... quelque chose de vif, qui est un tout petit bol, un tout petit contenant qui réveille les papilles, c'est du jus de ceviche. Après, on a une friture, après, il y a un petit bouillon. Ça, c'est la série d'amuse-bouche. Et après, on arrive à des plats plus classiques, donc qui représentent une entrée, un poisson, une viande et deux desserts.
Alors, non seulement on se régale, et en plus, c'est encore un des rares restaurants dans Paris, je trouve, où il peut se passer n'importe quoi. Parce que là, on parle de nourriture, mais il y a aussi une ambiance. Et moi, j'aime ça, quoi. Et on en a besoin.
Mais quand même, j'insiste sur le côté classique. La gastronomie, le monde de la cuisine, sa hiérarchie, etc., c'est quelque chose qui ne vous intéressait pas. Vous avez un peu cassé
des codes. J'étais effrayé. En fait, moi, j'étais attiré par la cuisine jeune, vraiment, parce que j'ai un petit peu eu du mal à l'école avec... le skate m'a foutu en l'air un peu les études. Et du coup, j'ai dû me poser quand même des questions assez rapidement. Et j'étais attiré par la cuisine, mais donc j'étais jeune, un petit peu, on va dire, rebelle, si on veut, mais... Donc du coup, j'avais vraiment peur de l'image et j'avais eu même un ami chef et j'avais donc écho de ce qui se passait dans les écoles et tout ça. J'avais peur.
Vous avez appris
la cuisine. J'ai abordé la cuisine plus par accident, mais en fait.
Donc pas d'école de cuisine.
Pas d'école de cuisine, mais j'ai travaillé par contre avec des chefs qui ont fait l'école pour moi et du coup, ils m'ont donné beaucoup de choses en cuisine. Eux avaient eu un circuit très classique, quoi.
Est-ce que vous sentez, Romain Duris?
Il faut voir la tête d'autres chefs, oui. Quand on se balade en France, quand on parle d'Iñaki, ils ont le regard qui pétille. Ah, Iñaki. On a l'impression que d'un coup, on leur donne accès à une liberté dans la cuisine, quoi. Et un culot, je pense. Enfin, une originalité, bref, ce qui fait Iñaki, quoi.
Je vous ai pas dit bravo pour votre étoile au Michelin?
Mais c'est pas nécessaire.
Bah, si. On est fiers de vous, Romain Duris.
Non, c'est beau.
Il nous a mis en appétit.
Ouais. Carrément.
Merci beaucoup d'être venu parler de votre passion, la gastronomie, et puis de votre façon de faire la cuisine.
Merci Iñaki, franchement.
Et vous allez nous rappeler son nom, Romain Duris?
Iñaki Aiz...
Aizpitarte.
Aizpitarte.
Je regarde notre chef basque du Châteaubriand à Paris, avenue Parmentier, et je trouve qu'il a un physique à jouer dans un film de Clapiche, Romain Duris.
Ah oui, c'est vrai, disons.
Le cheveu un peu hirsute.
Ah. Iñaki, t'as déjà joué ou pas?
J'ai eu une expérience à l'époque avec un ami, mais...
Et vous jouiez quoi?
Un jeune perdu un peu dans un milieu parisien qui vont voler un tableau dans un appartement.
Peut-être que Duris vous présentera Clapiche, qui sait. On va l'écouter. C'était en 2008, Cédric Clapiche.
C'est vrai que la dernière image du Péril Jeune, il y a Romain Duris qui est sur fond de ciel. Et on a l'impression qu'il regarde ses copains vu du ciel, quoi. Et c'est vrai, je me souviens, on n'avait pas le temps et je lui ai dit monte sur le panneau de basket. Il y avait tout le monde qui était en train de ranger les camions. Et, enfin, c'est ce genre de moment où c'est gênant parce qu'on a une espèce de dernière idée. Il y a mon assistant qui me disait « Tu voulais pas le filmer sur fond de ciel ?» J'ai dit « Ah oui, tiens, oui. » Je lui dis de monter sur le panneau de basket, de sourire, d'arrêter de sourire et de descendre. Et ce mec-là fait ça. Enfin, fait ce qu'il fait dans le film. Je peux pratiquement pas voir ce plan sans pleurer, personnellement. Je me dis « Mais comment ce mec-là dégage cette chose-là » qui n'est pas un truc que je lui ai dit, puisque moi je lui ai dit « souris, arrête de sourire, descends ». Ça fait mine de rien maintenant, je ne sais pas, disons 14 ans qu'on se connaît. Maintenant, enfin c'est plus de la direction d'acteur, c'est le fait de, dans les poupées russes, quand il est avec la mannequin et qu'il a une espèce de truc où il est complètement comme un débile devant la mannequin, et que je lui dis « essaye d'avoir un rire très bête, comme... » On avait vu un copain à nous qui avait dragué une fille et puis qui avait fait comme ça. Et je lui dis, tu te souviens ce qu'il avait fait devant cette fille? Il dit, oui, d'accord. Et ensuite, il fait ce truc-là et c'est parce qu'on a vu quelque chose ensemble que du coup...
J'adore ce genre de things like that, you know. I love, it was drôle. Hein.
C'est vrai qu'on se souvient de la scène. Il est drôle d'ailleurs, Clapiche aussi, non?
Il est très drôle, bien sûr.
C'est quoi la nature de votre lien amical et professionnel?
Ah, c'est vrai que c'est comme il dit, il y a un moment où on a été tellement complices, ça dépend des moments de notre vie, mais que c'était facile de mélanger des choses qu'on observait avec des scénarios. Ce personnage de Xavier qui est ni lui ni moi, mais qui se voyage entre nous, et à qui on aime bien ajouter des choses.
C'est bien de vieillir.
Ah ouais, moi j'aime bien.
Et de vieillir avec un cinéaste comme Clapiche, ça apporte des choses.
Oui, parce que Clapiche, il a un regard sur ce qui l'entoure. Il décrit une époque, il décrit le temps qui change, avec de l'humour et avec parfois de la profondeur. Donc c'est toujours riche. C'est pour ça que je croise plein de gens dans la rue qui ont l'impression que je suis leurs amis, parce que je me suis posé du coup la question et j'en viens de me dire que c'est parce que j'ai interprété des personnes qui étaient riches, c'est-à-dire très entiers, avec des doutes, de la fragilité, des questionnements, une maturité qui arrive. Et du coup, c'est vrai qu'il y a dans tous ces personnages-là chez Clapiche, les gens se reconnaissent à tel ou tel moment.
Quand Romain Duris ne travaille pas un rôle, quand il ne lit pas des scénarios pour les choisir, il dessine, il va danser le soir, il s'occupe de sa famille, de ses enfants, j'imagine. Mais il est aussi parrain d'une association.
Oui, qui s'appelle Sérum. La fin du cancer, le début de l'homme. Sérum.
Et là, vos yeux se portent vers un médecin.
Le professeur Karim Fizazi.
Pourquoi souhaitiez-vous sa présence?
Parce que d'abord, j'adore entendre parler à Karim Fizazi. Je trouve qu'il a un discours très clair et très rassurant. Et on a créé cette association parce que on trouvait que les femmes étaient très bien organisées pour parler des cancers féminins, le cancer du sein, qu'elles avaient une grande solidarité, une façon d'en parler assez habilement, et chez les hommes, un peu moins. Alors que les cancers masculins créent autant de problèmes. Et du coup, on se disait, on va essayer de créer quelque chose pour qu'on en parle librement, sans tabou. Et en tout cas, même si les gens ont du mal, on peut leur répondre avec une ligne téléphonique qui est là. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a créé avec Karim Fizazi.
Karim Fizazi, vous êtes chef du service de cancérologie de l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif. Ça peut surprendre certainement les auditeurs de savoir que cette cause, le cancer de la prostate, le cancer des testicules, de la verge aussi, concerne Romain Duris. Vous pouvez nous expliquer ça?
On se connaît avec Romain depuis une quinzaine d'années.
À quelle occasion, si ça n'est pas trop indiscret?
Via une connaissance.
D'accord.
Et du coup, je lui expliquais que je vois tous les jours parmi des nouveaux patients qui ont 25 ans et qui ont un cancer du testicule, ou qui ont 60 ans et qui ont un cancer de la prostate, mais dans tous les cas, ou presque tous les cas, qui sont perdus vis-à-vis de la maladie, vis-à-vis de ce qu'on leur annonce, vis-à-vis des traitements qu'il va falloir endurer. Et c'est vraiment très souvent une sidération que je ressens face à moi et que je comprends évidemment tout à fait.
Quand vous dites perdu, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils éprouvent?
Ils éprouvent une évidente perte de repère, une évidente peur face au risque de mourir de leur cancer. Alors on essaie en tant que médecin d'expliquer, de prendre du temps, etc. Mais je suis médecin, je suis pas malade. J'ai pas vécu le cancer et donc mes mots seront toujours ceux d'un médecin. Et puis j'ai une blouse blanche et puis etc. etc. Et c'est vraiment en y pensant que je me suis dit mais c'est trop bête de voir autant de jeunes hommes ou d'hommes un peu plus âgés défiler dans mon cabinet de consultation, vivre tous ce même problème sans pouvoir les aider autrement. D'où l'idée de créer une association de patients, ce qui est compliqué parce qu'il y a le secret médical. Je ne peux pas dire à un monsieur, écoutez, allez donc voir cet autre monsieur, il a la même chose que vous. Et puis, il a eu ça il y a un an ou deux ans ou cinq ans, il va pouvoir vous expliquer. Donc c'était un peu compliqué à faire. On a pu faire en sorte que ça arrive de manière anonyme. Et puis, au cours d'une réunion, les gens eux-mêmes se sont mis à parler. Écoutez, moi, je voulais vous dire, j'ai eu tel cancer, ça s'est passé comme ça. Et puis un autre s'est levé, et puis un autre s'est levé, etc. C'est comme ça que cette association Sérum a été créée. C'est toujours plus facile si quelqu'un, vous prenez votre téléphone, vous dites, écoutez, on vient de me trouver un cancer du testicule, j'ai vu le docteur machin, il m'a dit qu'il fallait que je reçoive tel ou tel traitement. Et vous avez quelqu'un qui a eu le même traitement que vous il y a 5 ans. Il va vous dire avec ses mots, comment ça se passe, ça se passe bien, ça se passe bien, il y a tel truc, etc., etc. Et c'est vraiment une expérience vécue et très importante.
Romain Duris, vous avez assisté à ces réunions, à ces prises de parole entre les malades?
Oui. Je suis comme Karim, je trouve ça important de pouvoir mettre des mots parce que c'est un traumatisme, c'est de l'inconnu. Et d'un coup, les mots rassurent. D'avoir des gens qui sont passés par là ou qui connaissent les bonnes personnes, parce que c'est surtout ça aussi, d'un coup il y a la vie qui bascule, on peut être jeune pour certains cas de cancer, 30 ans, 35 ans, on n'a parfois pas encore d'enfants et on ne sait pas où aller, Et on se dit, mais je connais personne, je connais pas de médecin, je connais pas d'amis qui, voilà. Et donc, du coup, je pense que c'est bien d'un coup d'avoir une ligne téléphonique où on peut être rassuré, où on peut être aiguillé.
Et vous dites quoi à ces patients quand vous les rencontrez dans les réunions? Quelle est votre place et peut-être votre discours, les mots que vous trouvez?
Ça dépend des cas, hein. Mais moi, j'essaie de ramener du positif. Après, je suis pas médecin, hein. Donc je peux pas, on peut pas toujours mentir, mais en tout cas, être présent, c'est déjà, voilà.
Jean-Pierre Pernaut a annoncé son cancer de la prostate récemment, ce qui finalement est assez courageux parce que on n'entend pas souvent ce genre d'annonce. Est-ce que c'est utile pour la prévention, par exemple, de ce cancer, professeur?
Alors, c'est d'abord à chacun de choisir ce qu'il souhaite concernant sa santé, et en particulier quand on est une personne publique, de dire ou de ne pas dire. De ne pas dire permet de ne pas être ennuyé. Dire peut permettre de normaliser la parole, faire en sorte de faire tomber les tabous. Mais c'est vraiment une décision qui doit être individuelle. J'ai vu vraiment tous les exemples. J'ai vraiment pas de recommandation à faire à quelqu'un, et c'est valable évidemment pour les stars, c'est même valable pour quelqu'un de plus habituel, de plus normal, au sein de son entreprise, au sein de ses proches, etc. Moi, dans ma pratique, moins il y a de tabous, et mieux je trouve que sont les choses. Mais c'est dans une pratique individuelle. Après, je crois qu'il faut vraiment respecter chacun.
Vous sentez que les hommes atteints de cancer des testicules ou de la prostate ont un peu peur pour leur virilité? Qu'il y a aussi ce tabou-là?
Alors, c'est le cas, effectivement. Dans le cas du cancer du testicule, on peut assez rapidement les rassurer. On nous a donné deux testicules, on en perd souvent un dans la bataille. On vit très bien, en fait, tout à fait normalement, le plus souvent avec un seul testicule. Donc, la virilité est conservée dans l'immense majorité des cas, et donc on peut être rapidement rassurant. Donc, le débat se pose sur d'autres plans. Dans le cancer de la prostate, c'est plus compliqué, parce qu'il peut y avoir, effectivement, une impuissance sexuelle due au traitement. Et d'ailleurs, quels que soient les différents traitements. Une des bonnes nouvelles au cours des dernières années, c'est qu'on s'est enfin rendu compte qu'un certain nombre de cancers de la prostate, finalement, ne sont pas agressifs et qu'on peut, dans certains cas, ne pas traiter du tout le patient, avec son accord, bien entendu, et simplement le surveiller et vérifier qu'il s'agit d'un cancer totalement indolent qui ne va pas entraîner de conséquences pour celui qui en est atteint et qui surtout ne va pas le tuer. Du coup, on évite les effets secondaires des traitements, et ça, c'est un progrès extrêmement important, ça touche des milliers et des milliers de personnes dans ce pays.
Je suis sûr que vous rassurez là des gens, vous croyez pas Romain Duris?
Mais c'est pour ça que c'est important d'écouter le professeur Karim Fizazi, c'est que à chaque fois on se rend compte qu'il y a des gens qui écoutent et qui sont soit rassurés, soit qui vont appeler, qui vont aller sur le site de Serum et qui vont se renseigner.
Serum, C-E-R-H-O-M. .fr, et le numéro de téléphone se trouve sur le site.
Alors vous êtes un homme qui soigne, un homme qui parle, on a compris l'importance des mots et de l'échange, vous êtes aussi un chercheur. Est-ce qu'on progresse dans le traitement du cancer de la prostate?
Réponse oui. Avec, en particulier, je vous ai dit qu'il y a certains cancers de la prostate sont des cancers finalement indolents. Donc ça, c'est en soi une très importante découverte, mais c'est plutôt simple, entre guillemets, en termes de découverte et de recherche. Ça consiste à rassurer un monsieur, à lui dire, on ne vous enquiquine pas avec un traitement, on va simplement vérifier qu'on ne s'est pas trompé, que vous avez vraiment un cancer indolent. Mais à l'autre extrême, vous avez des cancers qui sont agressifs, qui sont ce qu'on appelle métastatiques, qui ont été capables de disséminer dans d'autres organes, en particulier les os. Et pour ces cancers-là, on était, à part l'hormonothérapie traditionnelle, on était très démunis jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et on a fait finalement plus de progrès au cours de la dernière décennie, depuis 2010, qu'au cours des 50 ans qui ont précédé. Donc chaque année apporte une nouvelle moisson de progrès pour ces patients. Et je le vois bien, en l'espace de 10 ans, on voit des hommes souffrir moins, vivre plus longtemps, et de manière très significative, c'est évidemment très important.
Merci, je vais vous laisser partir parce que je crois que vous avez une soirée avec votre service.
Oui.
Est-ce que c'est une soirée déguisée?
Qui vous a dit ça?
Je sais pas, j'ai lu ça dans la presse, je crois.
Ouais, écoutez, vous lisez une bonne presse, alors, parce que c'est vrai.
Je vous demanderai pas en quoi vous vous déguisez, en Romain Duris, peut-être. Romain Duris, on va écouter de la musique, et on a fouillé dans votre filmographie, comme vous avez pu l'entendre depuis le début de votre grand atelier. On est allé voir dans L'Arnaqueur de Pascal Chaumet, là où vous êtes chargé de séduire Vanessa Paradis, qui va se marier, et vous devez briser son mariage. Et il y a une scène où tous les deux, vous êtes dans la voiture, et vous vous trémoussez sur du Wham.
Ah oui.
George Michael.
Ouais.
Matteo, jusqu'à midi, croyez-moi, le programme est chargé, chargé de bonne humeur, de cocotier, de palourdes. Alors on commence tout de suite avec George Michael et le groupe Wham. C'est chaud, c'est Matteo.
Jitterbug.
Je tiens à signaler qu'en cabine, toute l'équipe féminine du Grand Atelier bouge sur George Michael, mais que Romain Duris, pas du tout.
Ah non, mais là...
vous êtes un peu intimidé, entouré de vos invités. C'était bien de vous connaître mieux, Romain Duris.
Eh ben, merci, c'était super.
C'est vrai qu'on vous appelait Joie de Vivre quand vous étiez enfant?
Ouais.
On pourrait encore vous appeler Joie de Vivre, j'ai l'impression.
J'espère, je sais pas. Oh, vous êtes pas avec moi tous les jours, hein, toute la journée.
Vous êtes pénible?
Je sais pas, mais...
Bon, merci d'être venu.
Bah, merci beaucoup. Hein.
Bonne suite à vous. Vous dessinerez peut-être ce soir en rentrant chez vous?
Peut-être, ouais.
Bon, alors dessinez bien. Et je vous salue, Joie de Vivre.
Merci. Hein.